BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour à tous. Il est 9h passé de 31 minutes. On est en direct sur BFM Business. C'est les experts. On est ensemble pour une heure de débat et de controverse autour de l'actualité économique du jour. Une actualité évidemment marquée par Choose France avec cette question. Emmanuel Macron est-il meilleur VRP que gestionnaire? Évidemment, c'est la question qu'on va se poser ce matin. Car s'il faut reconnaître un talent au chef de l'État, c'est qu'il sait vendre la France. La preuve encore aujourd'hui avec ce qui ressemble déjà au contrat du siècle. SoftBank annonce 75 milliards d'euros d'investissement dans des data centers et l'intelligence artificielle. Une annonce spectaculaire qui s'annonce aux 87 milliards d'euros de projets dévoilés depuis le lancement de Choose France. C'était en 2018. Difficile de nier le succès, mais pendant que le président attire les capitaux étrangers, les finances publiques se dégradent, la croissance ralentit, la productivité stagne et le pays peine toujours à retrouver une trajectoire budgétaire crédible. Alors Emmanuel Macron est-il un excellent vendeur d'attractivité dans un pays qu'il gère moins bien qu'il ne le promeut? C'est le premier débat ce matin avec mes experts. Et puis nous parlerons du SMIC qui augmente encore aujourd'hui alors que la productivité française, elle, ne progresse plus. Alors est-ce soutenable à long terme? Ce sera le deuxième débat. Et puis nous reviendrons aussi sur cette proposition explosive de Pierre Cazeneuve, le député Renaissance, augmenter de 200 euros le salaire net pour, tenez-vous bien, 15 millions de salariés français en échange d'une hausse de la TVA, de la CSG et du retour de la taxe d'habitation. De quoi faire sauter trois fois la République? On en débattra avec mes experts. Et puis enfin, une question qui commence à inquiéter sérieusement les économistes. La France se dirige-t-elle vers une récession technique au moment même où se prépare le budget le plus difficile du quinquennat? Ce sera le dernier thème des débats ce matin avec mes invités. Allez, il est 9h passé de 33 minutes. C'est les experts. C'est parti. Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Elisabeth Ducoté. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
PDG de Tuan à vos côtés. Léonidas Kalogeropoulos. Bonjour Léonidas.
Bonjour.
PDG de Médiation et Arguments et président fondateur des Entrepreneurs pour la République. Et enfin François Eckhall. Bonjour François.
Bonjour.
Président aussi fondateur de Fipeco.fr, la bible sur les finances publiques. Allez consulter Fipeco et les fiches de François, c'est absolument passionnant. Le premier sujet, je l'ai dit, c'est évidemment Choose France qui s'ouvre aujourd'hui. Le dernier d'Emmanuel Macron, le 9e exercice. Alors l'annonce du jour, c'est évidemment le contrat du siècle, 75 milliards de dollars investis par SoftBank notamment, qui est devenue cette nuit d'ailleurs la première entreprise japonaise, la première capitalisation, passée devant Toyota cette nuit même. Bref, une pluie de milliards, est-ce que c'est un game changer pour le niveau d'attractivité de la France?
Mais bien sûr, Léonidas, c'est un élément absolument essentiel. C'est d'abord un investissement d'une taille qui n'est pas uniquement spectaculaire pour Choose France. C'est par son montant, c'est effectivement un investissement absolument colossal. Et vous savez, il y a les commentateurs, mais qu'est-ce qui fait la valeur même affective d'un pays? C'est là où on entreprend, c'est là où on investit. Il y a plein de gens qui commentent énormément de choses. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir quels sont les indicateurs qui ont amené SoftBank à investir et à choisir la France.
Oui.
Il parle de trois indicateurs qui sont très importants parce que ce sont autant d'indicateurs que l'on peut, j'allais dire, en même temps pointer du doigt pour leur faiblesse ou pour leur force. On parle d'énergie, on a entendu ce qu'il y avait de pire sur la situation énergétique de notre pays. C'est pourtant l'offre énergétique et la stabilité des prix énergétiques qu'on choisit.
J'ouvre une parenthèse.
Bien sûr.
On peut totalement balayer tout le débat autour de on consomme moins d'électricité aujourd'hui, on n'a pas besoin de PR supplémentaire.
Mais évidemment,
on a entendu ces derniers mois.
Enfin, c'est totalement malthusien d'avoir un raisonnement comme celui-là. Effectivement, il faut se projeter vers ce dont nous aurons besoin dans les décennies qui viennent. Donc, on a cette capacité de produire de l'électricité avec une technologie parfaitement maîtrisée et des coûts stables. On a, c'est extraordinaire, on entend ce qu'il y a de pire sur notre éducation et le président de SoftBank World Bank parle du système éducatif français et de l'extraordinaire capacité que nous avons à, entre guillemets, produire des ingénieurs. Et nous avons un grand retard dans les technologies numériques. Et néanmoins, on parle de la capacité de la France à être en pointe sur la tech et sur l'IA et avoir été quelque part en Europe leader sur ces sujets. Oui. Donc finalement, il y a les commentateurs et puis il y a ceux qui font. Et
oui.
Celui qui investit 75 milliards
les faiseux,
de ses moyens en France pour tous ces sujets, je pense qu'il faut l'écouter avec beaucoup d'attention.
Ouais, Elisabeth, du côté Emmanuel Macron a réussi son pari de l'attractivité quand même. C'est sa grande réussite du double quinquennat, si je puis dire.
Je crois qu'effectivement, chaque fois qu'on entend parler d'un investissement en France, on peut se réjouir. Ouais. On peut se réjouir parce qu'on fait ça sur un fonds dans lequel on voit énormément de choses qui sont en train, au contraire, d'être dans une baisse et dans une, quelquefois, dans une difficulté pathétique. Enfin, nous qui sommes dans les territoires, nous qui sommes dans l'industrie, ce que nous voyons autour de nous et ce que nous voyons avec réalisme, parce que c'est pas du négativisme, c'est pas de l'optimisme, mais c'est absolument dramatique en ce moment. Donc, chaque fois qu'on entend parler d'un investissement qui va créer de l'emploi et qui va créer de la valeur ajoutée, je crois que c'est très important. Je crois qu'il faut à la fois se dire que dans une période comme celle-là, on a à la fois peut-être les meilleurs ingénieurs au monde, on a des ingénieurs d'une qualité incroyable qui vont être les acteurs de cette transformation-là, et nous avons toutes les entreprises besoin de cette transformation, et à la fois on n'a jamais eu autant d'incivilité, c'est-à-dire de manque au comportement. C'est-à-dire que ces mêmes
jeunes... Ça, on l'a vu encore ce week-end. Hein.
Cette même jeunesse, je dirais, à la fois, oui, elle peut être la meilleure et la pire. Donc, ça veut dire que quand on a une bonne nouvelle, prenons-la, mais prenons-la avec tout ce qu'elle nous engage, en particulier pour tout ce qui ne va pas. Et moi, je pense bien sûr à tous ces événements pathétiques du week-end, qui est quand même une grande preuve de décroissance de la civilité. Cyrulnik est en train juste de lancer un livre sur la civilité.
Oui.
Et bien, je crois que
oui, Cyrulnik,
plus que jamais,
oui,
ce livre-là est important. Plus que jamais, je pense à Édouard Morin, qui a été le grand champion de l'humanisme. L'humanisme, ça se construit sur des relations, et ces relations sont dégradées en ce moment. Donc, à la fois, on a une jeunesse qui est capable d'une grande capacité scientifique, et à la fois on a dans des lieux vraiment à se refaire, je dirais, une vraie réflexion sur comment va-t-on éduquer notre jeunesse de demain.
Mais ça passe par quoi, ça?
Ben, ça passe certainement
l'école,
par
la formation, l'éducation, c'est la faute des parents,
c'est la faute à tout le monde, c'est la faute à chacun de nous, je dirais. Mais effectivement, les relations qui se détruisent, qui se dégradent, l'incapacité aujourd'hui à se traiter les problèmes autrement que par la violence, c'est une très très grande déformation de ce qu'on peut appeler la civilité, moi je dirais la citoyenneté, c'est-à-dire la capacité à vivre ensemble.
François, on a beaucoup dénoncé les impôts de production ces dernières semaines, le gel du barème des allègements de charges, etc. Bref, une fiscalité anti-business, si je puis dire. Est-ce que le succès de Choose France et du classement français, qui reste numéro un, le pays numéro un en Europe pour les investissements étrangers, ne montre pas qu'on peut avoir une fiscalité élevée et quand même être attractif?
Alors, il faut s'en féliciter, bien sûr. Il faut quand même aussi faire toujours attention à ces annonces d'investissement à un horizon indéterminé,
oui,
qui ne se matérialisent pas.
Vous avez
forcément
raison. Ensuite, là, on a 45 milliards, oui, grosso modo,
il y en aura quelques-uns quand même.
2031, voilà.
Voilà.
Voilà, les 75,
ensuite,
on verra.
Voilà. Donc, qui se matérialise. Donc, il faut quand même faire attention. Ensuite, on est quand même dans les. Il n'est pas normal qu'on soit le premier pays pour les investissements étrangers, étant donné qu'on est quand même le deuxième ou troisième pays de l'Union, deuxième de l'Union européenne, troisième
sur. Deuxième économie de la zone euro.
Voilà.
Oui,
ça dépend,
oui,
des années avec le Royaume-Uni. Voilà. Donc, c'est pas très étonnant. À presque. L'envers de la médaille, c'est que si on a besoin. Le problème, c'est qu'on a besoin d'investissements étrangers.
Oui.
Et si on a besoin d'investissements étrangers, c'est parce qu'on n'a pas assez d'investissements venant de résidents français. Globalement, ça va paraître extraordinaire, mais globalement, nous avons une épargne qui est insuffisante en France par rapport aux investissements.
C'est ce que nous dit régulièrement Jean-Marc Daniel. Il n'y a pas assez d'épargne dans ce pays, alors qu'on a plutôt l'habitude de dire qu'il y a trop d'épargne.
Exactement.
Mais oui. De 19% est très élevé.
Mais parce que quand vous dites ça, vous ne pensez qu'à l'épargne des ménages.
Oui.
Or, ce qui compte dans l'équilibre macroéconomique entre épargne et investissement, c'est non seulement l'épargne des ménages, mais c'est aussi l'épargne des entreprises et l'épargne des administrations publiques. L'épargne globale française, c'est ça. Les entreprises n'ont pas assez d'épargne par rapport à leur, voilà, par rapport à leurs besoins. Quant aux administrations publiques, elles désépargnent massivement.
Bah oui, et donc
globalement,
déficit, hein.
Globalement, on n'a pas assez d'épargne. Et c'est la traduction comptablement, c'est la même chose que le fait qu'on a un déséquilibre de ce qu'on appelle la balance des paiements courants.
C'est-à-dire
nos échanges, nos flux d'échanges commerciaux, de biens, de services, de revenus d'investissement sont déséquilibrés depuis 30 ans. Alors, parfois, juste à l'équilibre.
On est à peu près à l'équilibre, je crois, hein, on est revenu à peu près grâce aux services.
Il y a des années, on est juste à l'équilibre à peu près, mais globalement quand même, on est déséquilibré. C'est la même chose. Et donc, on a besoin, dans ces conditions-là, pour financer ce déséquilibre des paiements courants, soit on s'endette vis-à-vis de l'extérieur, ça c'est plutôt les administrations qui s'endettent,
oui.
Soit on fait appel à des capitaux étrangers, heureusement qu'on les trouve, donc ça c'est très bien, on les trouve, mais on est obligé de faire appel à des capitaux étrangers pour financer nos investissements. Donc c'est pas forcément une excellente nouvelle. Alors heureusement, pour revenir à la question, on y arrive en effet malgré nos impôts de production, etc.
Oui.
Mais parce que en effet, il n'y a pas que la fiscalité qui compte. C'est vrai. Il y a aussi on parlait de formation. Bon, on a quand même jusqu'à présent, ça va peut-être changer dans le futur, mais on a une main d'œuvre relativement qualifiée. On a des infrastructures qui sont plutôt bonnes. Voilà. On a quand même d'autres atouts, tant mieux.
Oui, une position géographique aussi qui est...
C'est vrai qu'on a le reflet de ce slogan de notre président du « en même temps ». On a en même temps le meilleur et en même temps le pire. Mais je trouve intéressant d'avoir le regard d'investisseurs extérieurs sur notre pays qui ont le choix... Finalement, le choix que souvent, nous l'avons pas. Nous sommes ici et nous investissons un peu par obligation de proximité.
Oui.
Là, ils ont...
On est choisi. On est choisi.
C'est intéressant.
Quoi.
Il y a 75 milliards que SoftBank veut investir. Ils veulent les investir un peu partout sur la planète. Ils choisissent l'Europe et ils choisissent la France. Je trouve que c'est très intéressant quand même de se dire, vous savez bien, la BPI, quand elle investit dans une entreprise, elle dit, je veux d'abord un investisseur privé et j'aurai comme cela un indicateur d'un investisseur avisé qui viendra me guider dans mes investissements publics. Ben, c'est finalement un investisseur extérieur plutôt avisé qui regarde les contrastes partout et qui trouve nos contrastes plutôt intéressants. Je pense qu'il faut surtout pas s'endormir sur de lauriers de cette nature et abandonner le combat sur tous les points de faiblesse que vous avez soulignés, qui sont des combats absolument essentiels, ils sont civilisationnels. Mais en revanche, je pense que nous ne devons absolument pas nous dire que notre pays est perdu, que notre pays est...
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est un signe de réindustrialisation,
oui,
cet investissement massif dans les... Est-ce que les data centers ne sont pas les nouveaux hauts fourneaux de l'économie française?
Je voudrais insister sur ce point parce que c'est un point de compétitivité
de notre pays
d'avoir des infrastructures de cette nature sur l'intelligence artificielle. Et je reviens sur les interventions du président de SoftBank qui dit effectivement que face à la compétition de pays qui ont des manœuvres sous-employées, en tous les cas sous-payées, cette compétitivité coût sur la main-d'œuvre, eh bien l'IA et la robotique sont pour nous des armes de défense essentielles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'emploi derrière ce que nous pouvons robotiser dans des usines très modernes, mais si nous ne le faisons pas, nous n'aurons même pas les emplois marginaux qui peuvent être associés à toute cette technologie qui sera numérisée. C'est vraiment un élément de compétitivité pour la totalité du reste de notre économie. Ça, je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit, parce que ce n'est pas juste le maillon des data centers qui est important, c'est tout
l'écosystème qui est autour, oui.
Tout l'écosystème qui concerne la totalité de l'industrie nationale.
Le data center, c'est vrai que c'est du béton et des serveurs.
Des serveurs,
assez peu de monde à l'intérieur, Elisabeth.
Et moi, je vous dirais, effectivement, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un plus l'autre. C'est-à-dire que si on veut que l'industrie devienne compétitive, se modernise, reste dans la course mondiale, parce qu'on n'a pas le choix, si on n'est pas mondial, si on n'est pas dans la course mondiale, on n'existe plus, et bien c'est forcément avec l'intelligence artificielle, avec cette transformation-là dans l'industrie comme ailleurs, que ça va permettre de se jouer. Donc on se réjouit de l'un plus l'autre. Mais il faut le regarder avec réalisme parce qu'effectivement, l'industrie, ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de faire une grande manifestation pour l'industrie. L'industrie, c'est de l'investissement et c'est pour ça que je reviens sur ce qui a été dit. Et c'est du long terme. Et l'investissement, ça suppose qu'il y a une capacité d'investissement. Et je reviens à une notion qui est peut-être pas très connue, c'est l'histoire du BFR. Le BFR, c'est le besoin,
besoin de fonds de roulement.
C'est-à-dire que nous avons besoin de la trésorerie, et à un moment où elle a été quand même mise en cause, qu'est-ce que c'est que la trésorerie d'exploitation ? Eh bien, c'est ce besoin financier qui nous permet l'investissement à un moment où on prend le risque d'investir. Donc voilà, je réinsiste sur cette trésorerie d'exploitation indispensable aux entreprises et qu'il ne faut pas fiscaliser avant même qu'on l'ait.
On parlait de compétitivité coût juste à l'instant, François, ça nous amène au second débat ce matin, qui est celui de la hausse du SMIC. Ce matin, le SMIC a un coup de pouce, 2,4% d'augmentation du SMIC après une hausse de 1,8% au 1er janvier, c'est automatique. Dès que l'inflation dépasse les 2%, le SMIC est réindexé, or l'inflation au glissement annuel est de 2,4%. Effectivement, le problème, c'est que si des années 70 jusqu'aux années 2000, la hausse du salaire minimum était tirée par la productivité était supérieure au SMIC, ça n'est plus le cas depuis un quart de siècle. Est-ce que économiquement, on peut continuer à augmenter le salaire minimum au-delà des gains de productivité, François Hécal?
Alors d'abord, quand on compare le SMIC au gain de productivité, il faut prendre non pas le SMIC en euros, qui est augmenté mécaniquement avec l'inflation, mais c'est le pouvoir d'achat du SMIC qui doit être comparé.
On rappelle la définition, peut-être. Voilà.
Donc le pouvoir d'achat, donc le SMIC corrigé. Or le SMIC depuis quelques années, il suit l'inflation, enfin mécaniquement, voilà, dès que l'inflation
il est indexé,
etc. Oui. Donc le pouvoir d'achat du SMIC en fait n'augmente pas. Il a augmenté dans le passé parce qu'on donnait des coups de pouce au SMIC, on a fait l'erreur, je pense qu'on l'a fait dans le passé avec beaucoup trop de coups de pouce au SMIC qui font qu'aujourd'hui le SMIC on a en France un niveau du SMIC par rapport au salaire médian ou salaire moyen qui est le plus élevé de l'Union européenne.
J'ai fait le calcul, on est à 67,5%.
Voilà, c'est ça, à peu près, dans les deux ou trois. Enfin, si nous place au premier ou deuxième.
Est-ce que c'est un niveau raisonnable ou...
Non, c'est trop. Et le résultat, alors on a été obligé de compenser ça dans le passé. Parce que ça résulte de l'histoire, donc essentiellement. Donc on a été obligé de compenser ça dans le passé par des allègements de cotisations sur les bas salaires.
Les fameux allègements de charges.
Au bout d'un certain temps, on finit par plus avoir de cotisations. Quasiment plus au niveau du SMIC, il faut d'où après d'ailleurs les autres débats sur comment on fait, comment on fait pour augmenter le pouvoir d'achat au niveau du SMIC sans augmenter le coût du travail, puisqu'il n'y a plus d'allègement possible, etc. Donc ça c'est le débat sûr. Donc on a fait une erreur dans le passé, c'est sûr.
Maintenant, bon, qu'on a corrigé.
Que le SMIC augmente comme l'inflation, comme il est. C'est vrai, on peut dire qu'il est quand même relativement élevé. Peut-être faudrait-il le désindexer. Il y a des débats là-dessus.
Mais c'est toujours très difficile à dire. On parle de salaire minimal et de gens qui sont payés 1500 euros par mois.
C'est assez contradictoire avec la suite de notre débat qui va être que certains considèrent qu'on n'est pas assez. Voilà, il y a le pouvoir d'achat à ce niveau-là n'est pas suffisant.
Rapprocher le net du brut, pour le coup, au SMIC, on y est quasiment. C'est 1500 euros.
Après, il y a d'autres solutions qui est de faire comme ce qui existe dans certains pays, c'est-à-dire de. Parce que le problème, c'est que le pouvoir d'achat du SMIC, il n'est pas du tout le même en région parisienne et d'autres régions.
On a parlé à un moment de SMIC régionaux.
Voilà. Donc on pourrait très bien imaginer aussi d'avoir un SMIC différencié par région ou différencié ou comme ça a été le cas dans certains pays pendant très longtemps en Allemagne, qui était laissé à la discrétion des branches, c'est le cas encore dans d'autres pays, laissé à la discrétion de branches professionnelles.
Alors des branches professionnelles, Léonidas, là, il y a 126 branches professionnelles qui passent sous le niveau du SMIC. Oui. C'est quand même un...
Bon, ce débat, on sait très bien que le fait d'avoir indexé le salaire minimum sur l'inflation, c'est ce qui crée la spirale inflationniste. Elle le fait que, j'allais dire, alimenter...
Les effets de second tour.
Les effets de second tour et le fait que, dès lors qu'on a rattrapé avec le pouvoir d'achat sans croissance de la productivité le niveau des prix, eh bien, les prix ne font qu'augmenter pour s'aligner sur l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc, c'est une spirale absolument mortifère et je ne vois pas d'autres possibilités pour corriger à la fois pour les salariés et pour la préservation de l'économie un équilibre à peu près stable que d'aller s'attaquer effectivement aux charges qui pèse sur les salaires.
Ah oui, mais sauf qu'il y en a quasiment plus, Léonidas. On est à 4-5 points autour du SMIC.
Il y a 250 euros de charges patronales qui restent sur le SMIC. Donc la totalité des charges salariales ont été, salariales ont été supprimées. Oui. Il ne reste qu'une petite part de charges patronales. Et cette charge patronale, elle est probablement le réservoir sur lequel il est possible de, quelque part, maintenir un niveau de vie acceptable pour ceux qui sont au SMIC, sans pour autant relancer la spirale. Bon. À l'occasion, vous me permettrez de revenir sur un mot concernant les data centers, mais je ne veux pas interrompre le débat sur...
Elisabeth, voilà. C'est vrai que le SMIC est à 1475 euros par mois. C'est quand même difficile de faire moins. Après, il y a une logique économique qui est que, surchargé pour l'employeur, en fait, c'est près de 2000 euros.
C'est ça le sujet.
Que la valeur du travail dépasse 2000 euros.
Le SMIC est devenu une espèce de chiffre emblématique, mais le sujet, c'est pas le SMIC, c'est l'ensemble des hauteurs de salaire. Chez nous, il y a personne au SMIC. Mais par contre, le vrai problème, c'est le problème des salaires vis-à-vis de l'inflation. Et cette maladie inflation, on l'a pas connue pendant des années. Donc, on avait une espèce de stabilité qui nous mettait quand même dans une situation assez logique, assez contrôlable. Aujourd'hui, on a cette maladie inflation qui revient tous les deux ans, tous les trois ans, ce qui est absolument dramatique. C'est-à-dire cette espèce de course de l'un par rapport à l'autre, c'est terrible parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'entreprise. Et l'entreprise, elle est dans une compétitivité mondiale, à un endroit où les charges sociales globalement sont les plus lourdes d'Europe et où les aides aux charges, enfin la baisse des charges sociales vient d'être annulée. Oui. Donc c'est pathétique parce que ça met les entreprises dans une non-compétitivité. C'est ça le sujet, c'est quand on fait la boucle entière où on passe bien sûr par le salarié, où on passe par l'État qui donne les niveaux et par l'entreprise derrière, on s'aperçoit qu'on est dans une situation de déséquilibre parce que l'entreprise française aujourd'hui, elle ne peut pas assumer plus de charges vis-à-vis de ses salariés. Or, l'inflation revient. Donc, il y a effectivement ce grand dilemme qui nous revient. Et faisons attention à ne pas faire uniquement le travail de réflexion sur le SMIC, mais sur l'ensemble de l'échelle des salariés.
Oui, bien sûr, parce que le problème derrière, c'est la SMIC, ce qu'on a appelé la smicardisation de la société. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un tassement vis-à-vis des salaires moyens. Salaire médian, on en parlait avec François Eckhall il y a une minute, qui est quand même extrêmement délétère dans la population, ce sentiment d'être rattrapé par le salaire minimum.
Mais le fait est qu'il y a un télescopage, vous avez raison de le rappeler, entre la nécessité d'essayer de trouver des marges de manœuvre avec une gestion des charges et le fait que le gouvernement, pris lui-même en étau dans ses contrats budgétaires, est en train d'annoncer l'annulation des baisses des charges. Oui. Donc, on est vraiment dans un moment où le risque de dérapage, d'un redémarrage du chômage est un risque qui pèse très gravement sur notre pays.
Parce que
la seule variable d'ajustement qui reste avec l'équation que vous décrivez très bien, c'est de se séparer de collaborateurs. Et ça, c'est dramatique.
C'est ça le risque qui arrive là, c'est la montée du chômage, François Eckhall.
Je crains que oui. Effectivement, c'est reparti.
Le corollaire, c'est ça, avec un coût du travail qui augmente, si on n'arrive pas à trouver une création de valeur qui soit à la hauteur du salaire, on n'embauche pas.
Le risque, c'est toujours il y a toujours ce risque-là, bien sûr. Si on a créé ces allègements de cotisations au niveau du SMIC, c'était bien pour favoriser l'emploi.
Et ça a marché.
Ça a
été très efficace.
Après, maintenant, il faut réfléchir. C'était d'ailleurs le sens du rapport Bozio-Vasmer.
Oui.
J'ai participé il y a 30 ans aux premiers allègements de cotisations sur les bas salaires. C'est Balladur qui a commencé. Parce que à l'époque, on disait le chômage touche surtout les moins qualifiés, parce que le progrès technique, la concurrence des pays à bas salaire fait que il y a un fort chômage des non qualifiés. On entre maintenant dans un mouvement dans lequel on risque d'avoir un chômage des plus qualifiés. Ça, c'est l'intelligence artificielle, etc. Donc, comme le disait Bozio-Vasmer, il faut peut-être réfléchir, parce que c'est peut-être plus la peine aujourd'hui de cibler, enfin de concentrer toutes ces aides, ces allègements au niveau du SMIC. Peut-être faut-il revoir la pente de ces allègements, en faire peut-être moins au niveau du SMIC, peut-être un peu plus ailleurs. Enfin voilà, en tout cas, il y a une réflexion à faire.
Alors certains disent exactement l'inverse, cher François, c'est-à-dire qu'ils disent qu'au-dessus de SMIC, ça n'a plus d'effet sur l'emploi.
Ça, c'est le discours que j'avais, qu'avaient beaucoup d'économistes dans le passé, parce que on avait un problème de chômage des non-qualifiés, etc. Ça n'est peut peut-être plus vrai maintenant et pour les années qui viennent. Donc il faut réfléchir ce discours-là que j'ai tenu pendant que je tiens depuis 30 ans.
Et qu'on tenait sur le plateau des experts voilà, encore la semaine dernière avec Stéphane Carcillon notamment.
Les allègements sont plus efficaces au niveau du SMIC, etc. Oui. J'ai toujours raconté ça. J'en suis moins sûr. Peut-être aujourd'hui c'est sans doute vrai, mais est-ce que ça va être encore vrai dans les 2 ans, les 3 ans qui viennent, vu à la vitesse à laquelle vont les mouvements de manœuvre liés à l'intelligence artificielle, j'en suis moins sûr.
Bon, c'est intéressant. Oui. Donc baisser les charges sur les hauts salaires si on veut rester dans la compétition.
En tous les cas, les effets budgétaires et sur l'ensemble de l'économie d'un redémarrage de la croissance du chômage, c'est un désastre collectif.
Oui.
Donc si chacun reconnaît, et je pense que c'est une logique évidente qu'on est déjà en train de voir à l'œuvre, que tendre la situation autour des salaires, commencer à revenir sur les allègements de charges avec ce discours sur les cadeaux qu'il faudrait retirer, enfin tout ça est absurde. La contrepartie de tous les allègements, c'était effectivement la baisse du chômage.
C'était l'emploi, et ça a fonctionné.
La totalité de la remise en cause de tout cela, c'est le redémarrage du chômage.
Après, je vais être provoque, mais est-ce que 2 milliards de gel sur 73 milliards d'allègements de charges, ça va avoir le moindre impact sur l'emploi, François Hécal?
Ça ne se verra sans doute pas.
Je rappelle qu'on doit faire 120 milliards d'efforts pour stabiliser la dette. Bien sûr.
2 milliards sur 70, c'est sûr que c'est pas énorme.
Est-ce que c'est pas politiquement, Elisabeth Ducôté, un moyen de préparer aussi peut-être le gel des aides sociales indexées sur l'inflation dans le prochain budget?
Les prémices d'une année blanche, oui.
Nous sommes dans le terrain. Nous sommes à Saint-Étienne et on est vraiment, je dirais, dans la réalité, dans le concret de l'économie d'une ETI. Eh bien, toute baisse, toute amélioration, je dirais, de la capacité employée est bonne. Dès qu'on voit les choses s'annuler, c'est quand même un très mauvais signe. C'est un signe et en même temps, ça conduit à moindre embauche, etc. Et n'oublions pas que quand
vous entendez, je vous coupe.
Oui, allez-y.
Ducôté, vous êtes PDG de Twan. Oui. Vous entendez gel des allègements de charges entre 1 et 3 SMIC. Vous dites
c'est
tout
une
de suite.
Nouvelle.
Non, mais est-ce que vous dites tout de suite, j'embauche moins? Est-ce que vous réagissez immédiatement?
Ça nous oblige nous-mêmes à regarder plus et à regarder sous un angle qui est le nôtre, c'est-à-dire l'Europe. Nous sommes une société européenne, c'est-à-dire que nous avons notre propre société dans tous les pays d'Europe. Eh bien, nous sommes européens avec la capacité d'embaucher dans des endroits divers et dans lesquels le niveau scientifique, le niveau de formation, le niveau général des cadres que nous pouvons embaucher est devenu très bon.
Oui.
Je dirais tous les pays de l'Est ont fait des énormes efforts. Il y a des universités très bonnes. Donc tout ça, c'est un problème de compétitivité. Où est-ce qu'on va pouvoir le plus être dans la bataille qui s'appelle la bataille du prix, qui est une bataille qui nous est imposée? Donc toute mauvaise nouvelle pour la France ou toute mauvaise décision prise est une décision dans laquelle il y aura un impact sur le local. Et moi, j'en suis infiniment triste quand ça se passe comme ça.
Allez, Laurence réagit sur mon compte Twitter, @legenrat, n'hésitez pas à poser des questions, à réagir. Elle nous dit que pour augmenter le pouvoir d'achat des personnes au SMIC, il faudrait alléger les frais de logement et donc arrêter d'augmenter les taxes foncières qui ont fortement augmenté à droite et à gauche. On va en parler tout à l'heure. Peut-être un retour de la taxe d'habitation. Donc ça, c'est pas gagné. Vous souhaitiez dire un mot très rapidement sur...
Oui, rapidement, concernant les data centers.
Les data centers, Léonidas.
C'est aussi un gisement d'innovation. Vous savez que la principale source de besoins énergétiques et de prise d'espace des data centers, c'est le refroidissement.
Oui.
Et donc, vous avez, autour du refroidissement, des progrès spectaculaires qui sont faits, et notamment en France, qui permettent de, miniaturiser et rendre beaucoup plus sobre d'un point de vue énergétique les systèmes de refroidissement. Et là, si on arrive à prendre le leadership sur ce sujet, qui est bien entendu un sujet mondial, on aura des perspectives extraordinaires. Et là encore, pour avoir la capacité d'innover, encore faut-il que l'on soit une terre de production. Si tous les data centers sont faits ailleurs, c'est pas ici qu'on fera les innovations. Eh bien, on a aujourd'hui des boîtes fabuleuses qui ont fait vraiment des innovations de rupture sur ce domaine. Je pense qu'il faut continuer à suivre ce secteur qui est non seulement un secteur d'investissement et de préparation de notre économie pour l'avenir, mais vraiment un gisement d'innovation de rupture capitale.
Une innovation de rupture, c'est le député Pierre Cazeneuve qui en propose une avec sa révolution fiscale. On va en parler dans une minute après une courte pause. Et puis, on va revoir ensemble aussi les derniers indicateurs de l'INSEE publiés en fin de semaine dernière. La croissance n'était pas de zéro au premier trimestre en réalité. L'économie française s'est contractée. Est-ce qu'on se dirige tout droit vers une récession technique ? Ce sera le dernier thème du débat. Ne quittez pas, on vient tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, les 10 heures passées de 2 minutes, vous êtes toujours en direct sur l'antenne de BFM Business. C'est les experts pour une demi-heure de débats et de controverses ensemble avec Elisabeth Ducoté, PDG de Tuan, Léonidas Calogéropoulos, PDG de Médiation et Arguments et président des Entrepreneurs pour la République, et François Eckal, fondateur de Fipeco.fr. Je voulais qu'on se tourne vers cette proposition publiée ce week-end, c'était dans le Parisien, dimanche. Pierre Cazeneuve, le député Pierre Cazeneuve, qui propose d'augmenter de 200 euros le salaire net de, tenez-vous bien, 15 millions d'actifs, rien de moins. Alors évidemment, tout cela coûte très cher, il faut transférer le montant des cotisations de tous ces salaires pour les basculer sur d'autres assiettes. Alors lui, il va franco, François, c'est rétablissement de la taxe d'habitation, bim, 25 milliards. Augmentation de la TVA, je ne sais plus s'il propose 1 ou 2 points, mais le point de TVA est à combien ? 12, 13, 14 milliards.
Oui.
Et puis une hausse équivalente de la CSG. Bon, on a de quoi faire sauter trois fois la République avec ça, non ?
On a beaucoup de propositions en ce moment dans le débat présidentiel, pardon. Sur
du le micro s'envole. Bon, voilà, même le micro court, en entendant, c'est hausse d'impôts.
Du type, soit je vais baisser les cotisations patronales d'un côté pour baisser le coût du travail et augmenter de l'autre côté, alors la CSG, la TVA, la taxe d'habitation, voilà, il y a plein de solutions possibles. Soit je vais baisser les cotisations salariales pour donner du pouvoir d'achat aux salariés et augmenter en contrepartie, pareil. Alors la CSG, c'est un peu bizarre parce que ça me paraît un peu contradictoire, mais est-ce qu'on va pas baisser les cotisations sociales pour augmenter la CSG ? Je comprends pas bien. Si, ça fait permettre de faire payer les retraités.
C'est un impôt.
Ça permet de faire payer les retraités au passage. Bon, d'accord.
On paye une CSG inférieure au niveau de celui.
Le problème de tous ces débats, c'est que on a un problème de finances publiques énorme. On a un effort à faire qui est de l'ordre de 80 à 100 milliards simplement pour stabiliser la dette en point de PIB. Or, toutes ces mesures...
C'était plutôt sur 120 milliards, alors on n'est plus à 20 milliards après,
on est plus après. Non, mais c'est des approximations, mais d'accord. C'est des dizaines de milliards. À un moment où, par ailleurs, il faut augmenter les dépenses militaires, si on veut faire passer les dépenses militaires de 2 à 3,5 points de PIB, c'est 45 milliards. Si on veut respecter nos engagements en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près 30, 40 milliards, etc. Donc c'est gigantesque, c'est un énorme effort qui est devant nous. Or, toutes ces réformes là proposées, que ce soit pour baisser les cotisations patronales, les cotisations salariales, pour réduire le coût du travail, voilà, toutes ces réformes, elles peuvent avoir un intérêt. Cet intérêt, il est limité. Typiquement, baisser les cotisations patronales et remplacer ça par la TVA, ce qu'on appelle de la TVA sociale, et économiquement, c'est la même chose qu'une dévaluation. Dévaluation, ça marche, ça marche pas, ça dépend. Nous, la France, a fait beaucoup de dévaluations dans l'histoire qui n'ont pas servi à grand-chose. Il y a des pays qui ont fait des dévaluations, ça a très bien marché, ça dépend des circonstances,
etc. Ça dépend de quoi, alors, qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas ? Gabriel Zucman s'est exprimé, il est foncièrement contre.
Ça va paraître assez contradictoire, mais pour que ça marche, il faut quelque part que les salariés payent. Donc les dévaluations qui marchent, c'est des dévaluations dans lesquelles le pouvoir d'achat baisse. On voit qu'on y est, c'est un peu contradictoire avec l'autre idée.
Ce que vous nous dites, c'est que ce que le salarié gagne, il va le dépenser en tant que consommateur.
Donc, au total, non, ce que je voulais dire quand même, c'est que, voilà, donc, mais à supposer même que ce soit positif, les gains sont limités et le coût politique, il est énorme. Parce que si vous prenez la TVA, si vous dites je vais financer ça par la TVA, pourquoi pas ? Mais la TVA, ça a quand même des effets un peu anti-redistributifs. Elle pèse plus quand même sur les
plus modestes. Les ménages les plus modestes, c'est ce qu'on dit à chaque fois, revenu. C'est injuste.
Donc c'est un coût politique énorme. Moi je dis, aujourd'hui, ce coût politique, il faut l'utiliser, si vous avez du capital politique, il faut l'utiliser pour réduire le déficit public. Donc nous allons probablement être obligés d'augmenter la TVA. C'est bien possible, parce qu'on n'y arrivera pas. Ces 100 milliards, on ne le fera pas uniquement par des économies sur les dépenses publiques. Il ne faut pas rêver. Donc on va être obligé d'augmenter les prélèvements obligatoires. On l'a déjà fait, on a déjà commencé. D'ailleurs.
Mais pour combler le trou du déficit, pour plus combler... que pour rendre du pouvoir d'achat.
Et bien donc, bon, on ne peut pas tout faire. Oui. On ne pourra pas tout faire.
Pardonnez-moi, François
Eckhall. On laisse terminer, François.
Et donc, toutes ces idées qu'on a en ce moment... Si on était il y a 30 ans, okay. 30 ans et qu'on n'avait pas ce problème de finances publiques, j'aurais dit oui. Aujourd'hui, je dis non. Aujourd'hui, on ne peut plus, malheureusement, il va falloir faire des efforts.
Priorité au budget plutôt qu'au pouvoir d'achat. Voilà. Léonidas, vous n'êtes pas d'accord.
Je suis en très amical, radical désaccord. Mais radical désaccord avec François Eckhall. Et pardon de vous le dire, je pense que vos paramètres de réflexion sont faux.
Ils sont pas faux, c'est une perspective budgétaire non, sur une situation faux. Macroéconomique.
Non, je pense qu'ils sont faux parce qu'ils ne partent pas d'un élément qui devrait quand même nous réunir, c'est comment on crée de la richesse. Et déjà, pour réduire nos déficits, il faudrait qu'on en crée. Alors, il y a deux paramètres qui permettent de créer de la richesse, c'est l'investissement et l'esprit d'entreprendre, et c'est le travail. Et le travail de notre pays est véritablement pénalisé, on ne gagne plus convenablement sa vie avec son travail, le travail est dévalué et la valeur travail est en perdition parce que la valeur accordée au travail a chuté. Et donc, tout cela, nous le payons par une productivité qui est en berne, et cette productivité en berne pénalise la totalité de la chaîne de valeur pour notre pays, et ça va bien entendu dans les déficits. Donc ce n'est pas simplement du bon taux comptable de savoir si oui ou non on prend de la TVA pour la remettre dans le salaire. Je vous rappelle d'ailleurs que lorsque la TVA augmente, il y a 100 millions de visiteurs européens, des touristes, qui viennent contribuer par leur consommation à, financer notre modèle social, alors qu'aujourd'hui ils ne financent rien. Donc mettre 2 points de TVA sur le taux normal, c'est-à-dire non pas sur les besoins
besoins de première nécessité. Il y a un taux de TVA réduit sur les objets de première nécessité.
On ne parle pas du 5,5 qui est le taux réduit pour les produits alimentaires. On parle de la totalité des autres produits qui sont à taux normal. Relever de 2 points ce taux, comme tous les pays scandinaves qui ont un modèle social comme le nôtre, c'est amener de nouvelles ressources au financement de notre système social. C'est redonner du pouvoir d'achat aux salariés, parce que je ne sais pas si on a besoin d'aller chercher 15 millions de salariés, mais en tous les cas, ne serait-ce que la moitié, ça reboosterait le travail et ça remettrait au travail des gens qui aujourd'hui arbitrent plutôt pour les revenus de la solidarité, et ça remettrait notre pays en marche. Donc ce n'est pas que des transferts, c'est mettre du carburant dans la machine travail,
sur le travail,
qui est la machine essentielle pour produire de la richesse dans notre pays.
J'ai redressement des comptes publics à ma gauche, redressement de
la machine
à créer de la richesse à ma droite. Peut-être qu'on peut faire les deux. Elisabeth, du côté, vous, votre position.
Je vais vous donner mon expérience d'entrepreneur et de dirigeant d'entreprise. C'est-à-dire que l'instabilité fiscale, c'est insupportable. Parce que c'est très coûteux pour tout le monde. Mais
L'instabilité fiscale.
Elle est extrêmement coûteuse parce qu'elle oblige à modifier, à négocier, à reconstruire. Elle prend un temps fou. Est-ce qu'elle est vraiment, efficace au bout du compte? Moi, j'en doute, si vous voulez. J'ai toujours un peu peur de ces bonnes idées qui viennent de la part d'esprits certainement très éclairés sur le plan d'une mécanique générale, mais qui n'ont pas mis vraiment la réalité de leur regard sur l'entreprise.
Donc vous nous dites que vous préférez un système imparfait, mais qu'on connaît bien, dans lequel on a su se développer,
de changer de règles, se dire tout d'un coup on a une bonne idée et on va modifier le vécu de la relation travail à l'entreprise, je trouve que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça amène du doute, ça amène de la négociation difficile, ça amène au bout, est-ce que ça amène une véritable satisfaction ? J'en suis pas du tout sûre. Donc moi, je suis très, très, j'ai beaucoup de doutes par rapport à ces idées qui arrivent de l'extérieur et qui ne sont pas venues voir comment ça se passe dans l'entreprise et comment sont réglés, je dirais, un groupe de citoyens qui vivent ensemble dans une entreprise. Première chose. Deuxième chose, l'entreprise ne peut pas supporter plus de charges. C'est pas possible. Et donc, c'est autour du déficit public qu'il faut absolument trouver des solutions. L'entreprise ne peut plus. Elle assume, au-delà de ce qui est possible, la charge de contribution, bien sûr.
Le financement de notre sécurité, notre modèle social repose sur le travail.
Mais aussi dans les territoires, à l'aide à l'enseignement, à l'aide aux scientifiques locales, à l'aide au social local, etc. L'entreprise assume vraiment, fondamentalement, ses devoirs, mais plus ce serait trop.
J'allais vous demander, François.
Ces débats, en fait, derrière ça, il y a des débats sur le financement de la protection sociale qu'on a depuis 30 ans. Il y a 30 ans, j'avais participé à un livre blanc sur le financement de la protection sociale. On avait tous ces débats, hein, les mêmes. C'était exactement les mêmes déjà. Et la conclusion.
Vous nous dites qu'on tourne gentiment en rond depuis 30 ans?
Ah, bien sûr, on tourne. Enfin, on raconte toujours les mêmes histoires depuis 30 ans. Il y a 30 ans, la conclusion j'avais participé en tout cas à ce rapport, et la conclusion de ce rapport, c'était. Toutes ces idées de transfert, en fait, de cotisation sociale ou patronale vers TVA. Bon, on avait imaginé, tu as toujours des cotisations, la valeur ajoutée, le BE, le capital, les taxes foncières.
Bon, on a tout tripatouillé.
Tout était passé. Mmh. La conclusion, c'était, ça peut avoir un intérêt, mais le vrai problème, c'est qu'on a des dépenses sociales qui augmentent plus vite que le PIB. On a des dépenses de retraite et de santé. Donc, si on n'arrive pas à arrêter cette augmentation des dépenses sociales, ça ne servira à rien. De toute façon, on sera obligé d'augmenter les prélèvements obligatoires. Donc, si vous avez un tout petit peu de capital politique aujourd'hui, c'est la réforme de retraite et la réforme des dépenses de santé qui est encore
plus difficile. Donc, on rejoint avec Leonidas, c'est le travail. Encore une fois, c'est le moteur de la prospérité.
Mais pardonnez-moi, François, mais vous ne pouvez pas dire que depuis 20 ans, on a tout essayé. Depuis 20 ans, la TVA sociale, on n'en parle pas.
Les débats,
mais on n'y a pas touché à ça l'instant.
Ah, mais on a fait la TVA sociale, elle existe déjà.
Pour ce qui est de la TVA sociale, je vous rappelle que, pour le moment, le patronat est unanime, et pardonnez-moi sur ce point, le patronat est unanime à défendre une TVA sociale aujourd'hui, parce que sur la base de la même analyse, que si on veut être capable de retirer des charges sur le travail pour que le travail redevienne attractif, il faut que l'on trouve d'autres sources de financement, d'où cette volonté du monde patronal d'aller vers la TVA sociale. Et pour ce qui est du dérapage incontrôlé de nos dépenses sociales, elles viennent en contrepartie. C'est les vases communicants entre le travail et les dépenses sociales. Je vous rappelle que lorsque l'on ne travaille pas, on vit grâce à de la dépense sociale. Et donc, si on veut que le vase de la dépense sociale se vide et qu'il aille ailleurs, il faut qu'il aille dans des revenus du travail. Il faut rendre le travail plus attractif. Il faut que lorsque l'on a démarré sa vie professionnelle, on ait quelque chose de radical qui ait changé dans sa vie. Que l'on ait de l'espoir, que l'on puisse bâtir une famille, que l'on soit véritablement dans un mouvement porteur. Eh bien, ce mouvement-là s'est cassé dans notre pays. Le travail ne paye plus suffisamment. C'est un élément essentiel. Ce n'est pas comptable, François Hical. Ce n'est pas comptable, la lutte pour la TVA sociale. C'est véritablement pour remettre, en place la promesse républicaine. La promesse républicaine, c'est si vous avez fait de bonnes études, vous allez avoir un bon emploi. Et si vous avez un bon emploi, vous allez avoir un bon niveau de vie. Cette promesse-là, elle est cassée, il faut la restaurer.
François, vous disiez une chose très intéressante, c'est comme Patrick Martin la semaine dernière à KPME au micro de BFM Business, c'est que la TVA sociale existe déjà.
Oui,
quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Il dit qu'il y a 50 milliards de TVA sociale.
Renvoyés, répercutés par l'État, des caisses de sécurité sociale et autant d'ailleurs aux collectivités locales. Et ça a été fait en contrepartie de la création du CICE, puis après des allègements de cotisations. Donc, c'est la contrepartie.
Oui, mais en gardant le niveau de TVA au même niveau, je vous rappelle que dans tous les pays scandinaves, la TVA est à 22 points.
On a 1 à 2 points d'écart avec la moyenne européenne.
Et c'est le seul tout, la seule taxe sur laquelle la France n'est pas leader. Mais on est au-dessous de la moyenne.
Mais je sais.
Donc là, on a une petite marge de manœuvre.
Je sais, mais on a une marge de manœuvre pour réduire le déficit. Non, mais on a une marge de manœuvre, en effet, sur la TVA. En effet, c'est on est les recordman de l'Union européenne pour ce qui est des impôts, des
prélèvements sur le travail et
sur le capital.
Oui.
En revanche, pour ce qui est des prélèvements sur la consommation, on est dans la moyenne.
On est au-dessous de la moyenne. On a voulu être
la TVA ou si on rajoute, parce qu'on a aussi beaucoup d'autres impôts sur la consommation.
On a voulu
si on veut réduire le déficit, je suis d'accord. Il ne faut pas l'augmenter, les prélèvements sur le travail et le capital. On en a trop déjà. Ouais. Dans l'absolu, on en a trop. Il reste les prélèvements sur la consommation.
Elisabeth,
on a voulu être un pays de consommateurs. Soyons un pays de producteurs et mettons notre fiscalité en adéquation avec ce projet.
Oui, mais bon, il y a des contraintes.
Contraintes politiques majeures, évidemment.
Bien entendu, Emmanuel Macron, contraintes politiques.
Pendant ce temps-là, annonce, je cherche le chiffre des investissements records pour 93 milliards d'euros. Alors, il faut toujours faire un peu, fait monter la mayonnaise, le président très souvent autour de ces chiffres, mais 93 milliards d'euros pour Choose France. Ce qui est quand même, on avait commencé, vous vous souvenez, on a commencé à 3 milliards en 2018. C'est aussi l'image d'un monde qui change. Hein. Je veux dire, sur le côté massif des investissements autour de l'IA, c'est absolument incroyable. Allez, il est 10h17, vous êtes toujours en direct sur BFM Business. Il est temps qu'on avance. On parle prospérité, en réalité, autour de tous ces sujets. L'idée, c'est quand même comment redresser l'économie de ce pays et en faire un pays plus prospère. En attendant, malheureusement, les derniers chiffres publiés par l'INSEE, c'était en fin de semaine dernière, ne sont pas très encourageants. On pensait que l'économie avait stagné au premier trimestre. Ça n'a pas été le cas. Ça a reculé. L'économie a contracté de 0,1%. Et les indicateurs au deuxième trimestre sont très mauvais, François. Consommation, inflation, la consommation s'effondre. L'investissement tient à peu près, y compris dans l'investissement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle à souligner. Mais globalement, est-ce qu'on se dirige vers une récession technique? On parle de technique comme si pour se rassurer un peu en ce moment. Mais est-ce qu'on se dirige vers une récession?
Possible. Après, bon, entre 0 et moins 0,1, c'est l'épaisseur du trait. Hein.
Oui.
Si ça se trouve, les comptes seront révisés, on reviendra à 0 ou sera moins 0,2.
Bon.
Mais sur le fond, c'est vrai que la situation n'est pas bonne. Mais ben, dans tous les pays européens, ça c'est lié à l'environnement international, hein, oui. Pour l'essentiel.
L'Allemagne vient de diviser par deux sa prévision de croissance.
Récession technique, j'en sais rien. Je ne suis pas macroéconomie, je ne fais pas d'enquête de conjoncture. Mais ce n'est pas impossible, hein, oui. C'est-à-dire, récession technique, ça veut dire...
On rappelle la définition.
C'est deux trimestres consécutifs avec une croissance du PIB négative. C'est possible. Après, je pense pas qu'on ait une croissance négative sur l'ensemble de l'année en moyenne, parce qu'on est, on a quand même déjà un
acquis. On a un acquis de croissance de 0,4.
La croissance a été quand même relativement forte à la fin de l'année dernière, donc ça porte l'ensemble de l'année. Maintenant, on peut très bien avoir une croissance très faible pour 2026 et 2027 aussi.
Oui, c'est ça. C'est donc de mauvais augure pour l'année prochaine, en réalité.
C'est de mauvais augure pour l'année prochaine, bien sûr.
Bon, c'est donc une campagne présidentielle sous forte pression.
Une internationale qui est vraiment un coup de massue sur la totalité de l'économie. Je suis pas très rassuré sur ce que sera le deuxième trimestre, parce que dans le deuxième trimestre, il y avait un mois de mai, et le mois de mai, avec l'ensemble des ponts que nous avons eus, c'était un quasi mois d'août. C'est une aberration.
Ça peut être bon pour la consommation, mais avec les prix du pétrole, ça risque d'être compliqué, effectivement.
C'est une aberration. Ce mois de mai est un... je sais pas, parler de courage politique.
Une respiration.
Non, mais c'est pas une question de respiration. C'est un dommage permanent infligé à notre économie. Ce sont des coups de fusil qu'on s'envoie dans notre propre pied. C'est épouvantable. Enfin, je pense qu'on a tous expérimenté ces semaines dans lesquelles aucune équipe n'est au complet. Il y a des vacances tournantes. Enfin, c'est invraisemblable. Donc, un premier trimestre qui probablement a été beaucoup impacté par la situation internationale et la situation sur le carburant, les problèmes d'acheminement de matières premières. Probablement, les choses vont se corriger dans peu de temps, mais je suis assez pessimiste sur le deuxième trimestre. Je pense néanmoins que ce que nous venons de décrire depuis le début de la matinée, c'est une situation économique extrêmement contrastée de notre pays, avec des atouts qui restent extrêmement importants. Et moi, je suis confiant sur le fait que s'il y a une récession, elle est purement technique, elle est conjoncturelle, et que globalement, nous avons des projets d'investissement qui sont extraordinaires et des innovations qui sont très, très porteuses. Maintenant, ça ne nous met pas à l'abri d'une conjoncture internationale qui est vraiment au rouge à peu près sur tous les volets.
Qui dépend évidemment du conflit au Moyen-Orient sur laquelle personne n'a la main. Mais j'allais dire, Elisabeth, ces craintes de récession, on les a depuis la dissolution en réalité. Avant, c'était l'instabilité politique et puis finalement, on a vu que l'année dernière, on avait fait un peu mieux que prévu. Bon, là, on voit que l'environnement international est très compliqué, mais est-ce que les entreprises, le grand talent des entreprises, c'est pas de s'adapter avec énormément de résilience aujourd'hui?
Moi, je dirais plus que les entreprises, je dirais les collaborateurs. Moi, je suis impressionnée par la qualité de résistance, de résilience, de volonté, d'engagement. Mais effectivement, dans un mois de mai comme celui qu'on vient de vivre, c'est absurde, parce que le travail, c'est pas un jour de travail, c'est une suite de choses dans laquelle on a une ligne. C'est-à-dire que quand on coupe les choses, ben, ça ne passe plus rien. Un mois dans lequel on a eu 13 jours travaillés, c'est une absurdité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça est très très fragile. Parce qu'il y a un concours de circonstances qui est quand même cette crise, je dirais, économique, politique très, 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 très grave, qui fait que, par exemple, nous avons du mal dans nos approvisionnements. Nos approvisionnements viennent plus tard, plus cher. Donc, la première chose qu'on est obligé, c'est d'augmenter des stocks. Parce que sinon, on ne peut pas tourner. Donc, si vous voulez, on est en train d'avoir le cumul de choses qui sont d'origine variée et qui sont plutôt d'origine de difficultés plus nombreuses et qui viennent juste après la hausse, par exemple, de toutes nos exportations vers les États-Unis. Donc, ce concours de circonstances négatives, effectivement, fait qu'actuellement, la vie économique est très dure. Moi, je me réfléchis comme entreprise européenne et pas seulement française. Parce que je vois dans les entreprises...
Et c'est toute l'Europe qui souffre.
Et
pour le coup, c'est un choc exogène, cette crise au Moyen-Orient.
Dans un certain nombre des pays dans lesquels nous avons des filiales, des croissances qui sont bonnes. Notre filiale polonaise marche très bien. On voit des pays qui étaient considérés comme des petits pays émergés très vite, et ces anciens pays de l'Est qui sont la Roumanie, la République tchèque, etc., sont des pays dont la vie économique actuellement est bonne, et on voit que le Portugal marchait bien aussi. Donc, c'est vrai, moi, je me réfléchis en tant qu'Européenne, mais c'est vrai que je trouve qu'en France, en ce moment, on sent bien qu'il y a une difficulté.
Bon, est-ce qu'il va falloir adapter notre trajectoire budgétaire à cette nouvelle donne économique, François Eckel? Comment s'annonce le PLF 2027 dans ce contexte?
Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais enfin, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que si le ralentissement de l'activité reste limité, il faut tenir les objectifs de déficit, notamment le 5 points de PIB pour cette année. Voilà.
Limité, ça veut dire quoi? C'est 0,1, 0,2 points?
Oui, voilà, si on reste dans cela. Après, si, par exemple, je ne sais pas, la croissance cette année devait être zéro, quand on est face à une récession, tous les économistes vont dire, c'est pas le moment de faire de la consolidation budgétaire.
Oui.
Il faut laisser jouer les stabilisateurs automatiques, pas forcément prendre des mesures de relance dans tous les sens, mais au moins ne pas essayer de pas non plus faire des efforts considérables de redressement des finances.
De pas geler les minima sociaux.
Se rappeler que par exemple les règles budgétaires européennes mettent justement pour cette raison-là beaucoup plus l'accent aujourd'hui sur l'évolution des dépenses, pas sur les objectifs de déficit. Donc même du point de vue des règles européennes, du point de vue des marchés, etc., dans une situation, je dirais, de récession, pour simplifier un peu les choses, dans une situation de récession, on ne nous en voudra pas, personne ne nous en voudra d'abandonner nos objectifs de déficit, à condition qu'on tienne nos objectifs d'évolution des dépenses. C'est ça qui est le plus important.
Et donc des dépenses sociales.
Et donc des dépenses sociales.
Oui, et moi, la très grande Léonidas crainte que j'ai dans les circonstances économiques qui se sont dégradées, c'est que l'on fasse des mauvais choix et que ces mauvais choix...
On ressorte le carnet de chèques.
Mais que ça soit des mauvais choix qui auraient un effet sur le chômage. Pour moi, la crainte principale que nous avons à essayer de traiter, c'est de ne pas laisser repartir la courbe du chômage. Ça entraîne automatiquement des dépenses sociales nouvelles. C'est des petites économies à courte vue, si ça provoque le redémarrage du chômage, et notamment sur des mauvaises décisions qui pourraient être prises sur les allègements de charges, ça dégrade ensuite la totalité de la trajectoire. Je pense que s'il y a une chose que nous avons pu apprendre des crises précédentes, précédente, c'est que si on accuse les entreprises à faire l'arbitrage sur l'emploi, c'est absolument dévastateur oui. pour la totalité de la chaîne économique ensuite. Et donc, je suis très, très...
Ça reste inquiet. Le sujet fondamental, hein, remettre la France au travail.
C'est remettre
donc
la France
chez les jeunes
au
et les seniors, c'est là où le taux d'emploi pose problème.
Et absolument, et la question aussi du traitement des retraités et de leur accompagnement, c'est aujourd'hui probablement en France que l'on a les retraités les mieux traités d'Europe ou du monde entier. Il y a peut-être là aussi des petites choses que l'on peut corriger pour ne surtout pas toucher à ce capital que nous avons fini par acquérir, qui est la baisse du chômage. Si on repart vers les 10%, je crois que c'est un désastre collectif pour notre pays et beaucoup plus qu'un désastre budgétaire.
Je voulais un dernier mot, François, sur la loi spéciale dont on entend beaucoup parler en ce moment. Pour ou contre, vous ? Une loi spéciale. On rappelle ce que peut être une loi spéciale hein, pour le budget. Grosso modo, on gèle tout.
On gèle tout.
Jusqu'à la présidentielle, mois par mois, on décaisse ce qu'on a fait l'année précédente.
Ouais, c'est une mauvaise chose.
On a tout. On a entendu tout et son contraire sur la loi spéciale. Ça peut faire des économies. Non, en réalité, ça coûte très cher. Est-ce que c'est pis-aller avant
la présidentielle? Ça permet de faire quelques économies à court terme sur le budget de l'État parce que les crédits sont gelés. Ça augmente l'impôt sur le revenu parce que le barème de l'impôt sur le revenu n'est pas indexé. En revanche, il se passe rien sur les dépenses sociales puisque à ce moment-là, le code de la sécurité sociale s'applique et donc il y a indexation automatique des retraites en particulier.
Donc là, ça veut dire que les dépenses sociales, par contre, peuvent s'envoler, surtout s'il y a de l'inflation.
Voilà, elles sont indexées comme sur l'inflation. Voilà, donc ça va nous coûter l'année prochaine, ça va nous coûter assez cher. Donc ça permet de faire quelques petites économies, mais qui n'ont sur le budget de l'État, essentiellement sur le budget, uniquement sur le budget de l'État,
mais beaucoup de dépenses
sur la dette sociale qui sont très faibles par rapport à ce qu'il faudrait faire. Voilà, et donc il faudrait mieux avoir un vrai budget avec de vraies économies, etc. Et une loi de financement de la sécurité sociale avec alors des indexations ou je ne sais pas quoi.
Oui.
Voilà, des mesures sur les dépenses sociales. Donc c'est pas terrible. En plus, ça entretient l'incertitude puisque s'il n'y a pas de budget, bah on ne sait pas finalement. Les entreprises ne savent pas finalement quels impôts elles vont devoir payer, etc. Donc pour les gestionnaires de finances publiques, c'est pas bon non plus parce qu'ils savent pas non plus quels crédits ils vont avoir, etc. Donc c'est pas bon. Maintenant, moi je suis prêt à faire le pari qu'on va avoir en effet une loi budgétaire spéciale jusqu'au mois de juillet.
Allez, le pari est pris. Bon, eh ben rendez-vous l'année prochaine pour ça. Merci à tous les trois. Elisabeth Ducoté, Léonidas Calogéropoulos et François Eckel pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay. Tout de suite, c'est R et Défense, animé par Jean-Baptiste Huet. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, en direct sur BFM Business, 9h30. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.